podcast de l'UA. Nos bâtardises, épisode 4. Écho de vie minuscule de Pierre Michon, lu par Aloïs Cluzeau.
Pierre Michon, vie minuscule, 1984, édition Gallimard. Un jour de l'été 1947, ma mère me porte dans ses bras, sous le grand marronnier d'écart, à l'endroit où l'on voit déboucher soudain le chemin communal. Jusque-là, caché par le mur de la porcherie, les coudriers, les ombres. Il fait beau. Ma mère, sans doute, est en robe légère. Je babille. Sur le chemin, son ombre précède un homme inconnu de ma mère. Il s'arrête. Il regarde. Il est ému. Ma mère tremble un peu. L'inhabituel suspend son point d'orgue parmi les bruits frais du jour. Enfin, l'homme fait un pas, se présente. C'était André Dufourneau. Plus tard, il dit avoir cru reconnaître en moi la toute petite fille qu'était ma mère, pareillement infante et débile encore, quand il partit. 30 ans, et le même arbre qui était le même, et le même enfant qui était un autre. Bien des années plus tôt, les parents de ma grand-mère avaient demandé que l'assistance publique leur confiât un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme, comme cela se pratiquait couramment alors, en ce temps où n'avait pas été élaborée la mystification complaisante et retorse qui, sous couvert de protéger l'enfant, tend à ses parents un miroir flatteur, édulcoré, somptuaire. Il suffisait alors que l'enfant mangeât, couchât sous un toit, s'instruisît au contact de ses aînés, des quelques gestes nécessaires à cette survie dont il ferait une vie. On supposait pour le reste que l'âge tendre suppléait à la tendresse, palliait le froid, la peine et les durs travaux qu'adoucissaient les galettes de sarrasin, la beauté des soirs, l'air bon comme le pain. On leur envoya André Dufourneau. Je me plais à croire qu'il arriva un soir d'octobre ou de décembre, trempé de pluie ou les oreilles rougies dans le gel vif. Pour la première fois, ses pieds frappèrent le chemin que plus jamais ils ne frapperont. Il regarda l'arbre, l'étable, la façon dont l'horizon d'ici découpait le ciel, la porte. Il regarda les visages nouveaux sous la lampe, surpris ou émus, souriant ou indifférent. Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas. Il s'assit et mangea la soupe. Il resta 10 ans. Ma grand-mère, qui s'était mariée en 1910, était encore fille. Elle s'attacha à l'enfant, qu'elle entoura assurément de cette fine gentillesse que je lui ai connue et dont elle tempéra la bonhomie brutale des hommes qui l'accompagnaient au champ. Il ne connaissait ni ne connut jamais l'école. Elle lui apprit à lire, à écrire. J'imagine un soir d'hiver. Une paysanne jeunette, en robe noire, fait grincer la porte du buffet, en sort un petit cahier perché tout en haut, le cahier d'André, s'assied près de l'enfant qui s'est lavé les mains. Parmi les palabres patoises, une voix s'anoblit, se pose un ton plus haut, s'efforce en des sonorités plus riches d'épouser la langue aux plus riches mots. L'enfant écoute, répète craintivement d'abord, puis avec complaisance. Il ne sait pas encore qu'à ceux de sa classe ou de son espèce, n'est plus près de la terre et plus prompte à y basculer des rechefs, la belle langue ne donne pas la grandeur, mais la nostalgie et le désir de la grandeur. Il cesse d'appartenir à l'instant, le sel des heures se dilue, et dans l'agonie du passé qui commence toujours, l'avenir se lève et aussitôt se met à courir. Le vent bat la fenêtre d'un rameau, décharné de glycine, le regard effrayé de l'enfant erre sur une carte de géographie. Il n'était pas dépourvu d'intelligence. Sans doute disait-on qu'il apprenait vite. Et avec le bon sens lucide et intimidé des paysans de jadis, qui rapportaient les hiérarchies intellectuelles aux hiérarchies sociales, mes aïeux, sur de vagues indices, élaborèrent, pour rendre compte de ses qualités incongrues chez un enfant de sa condition, une fiction plus conforme à ce qu'il tenait pour le vrai. Dufourneau devint le fils naturel d'un hobereau local, et tout rentra dans l'ordre. Nul ne sait plus s'il fut instruit de cette ascension fantasmatique. Nul ne sait plus s'il fut instruit de cette ascendance fantasmatique, issue de l'imperturbable réalisme social des humbles. Il importe peu. S'il le fut, il en conçut de l'orgueil et se promit de reconquérir ce dont, sans qu'il l'eût jamais eu, la bâtardise l'avait spolié. Il ne fut pas, une vanité prit possession de ce paysan orphelin, élevé dans un vague respect peut-être, des égards insinués assurément, qui lui parurent d'autant plus mérités qu'il en ignorait la cause. Nul ne sait plus s'il fut instruit de cette ascendance fantasmatique, issue de l'imperturbable réalisme social des humbles. Il importe peu. S'il le fut, il en conçut de l'orgueil et se promit de reconquérir ce dont, sans qu'il l'eût jamais eu, la bâtardise l'avait spolié. S'il ne le fut pas, une vanité prit possession de ce paysan orphelin, élevé dans un vague respect peut-être, des égards inusités assurément, qui lui parurent d'autant plus mérités qu'il en ignorait la cause.
Écho de « Bouche cousue » de Mazarine Pinjot et de « La honte » de Annie Ernaux, lu par Mylène Charaja.
Mazarine Pinjot, extrait de « Bouche cousue », 2005. 1984. Acte de ma reconnaissance auprès d'un notaire. Mise à jour à l'état civil d'Avignon, après la mort du père. Mention au stylo bleu sur le livret de famille. Le père en bleu. Le père comme mention, une mise à jour. Le père manuscrit. Déjà, c'est l'être vivante qui écrase la typographie administrative. Mais la typographie, ça fait vrai. Des taches d'encre, ce n'est pas sérieux. Une plaisanterie peut-être. Et puis, à l'effaceur, on pourrait faire comme si les lignes n'avaient pas été rajoutées. Un erratum, des ratures, comme lorsqu'il corrigeait un manuscrit tapé par ma mère. Des lignes et des coupes à la main. Tracé par son Waterman lourd et foncé. Bien sûr, c'était le meilleur du texte, ces corrections. Petite correction sur le livret de famille, qui me permettait de le porter, ce nom. Mais ce jour-là, de 1974, il s'est débrouillé autrement. Sur ma fiche d'état civil, il y aura écrit « Mazarine ». Son invention. Sa signature. Son nom de famille devient inutile. Mon deuxième prénom est Marie. C'est celui de la Vierge et de la clandestinité.
Thank you.
Annie Ernaux. Extrait de La Honte, 1997. J'ai mis au jour les codes et les règles des cercles où j'étais enfermée. J'ai répertorié les langages qui me traversaient et constituaient ma perception de moi-même et du monde. Nulle part il n'y avait de place pour la scène du dimanche de juin. Cela ne pouvait se dire à personne, dont aucun des deux mondes qui étaient les miens. Nous avons cessé d'appartenir à la catégorie des gens corrects, qui ne boivent pas, ne se battent pas, s'habillent proprement pour aller en ville. Je pouvais bien avoir une blouse neuve à chaque rentrée, un beau missel, être la première partout et réciter mes prières. Je ne ressemblais plus aux autres filles de la classe. J'avais vu ce qu'il ne fallait pas voir. Je savais ce que, dans l'innocence sociale de l'école privée, je n'aurais pas dû savoir et qui me situait de façon indicible dans le camp de ceux dont la violence, l'alcoolisme ou le dérangement mental alimentaient les récits conclus par « C'est tout de même malheureux de voir ça ».
Peu importe ce que les bâtards visent ou ce que les bâtards disent, je suis accueilli par la MIF comme Lee Welling à Cardiff. Je veux pas savoir ce que ça peut faire de perdre son frère. Subir ce qu'on subit mon père, son père et le père de son père. Faut esquiver les vides poissards, les vides bâtards. Pour chasser comme les albis jouant en pays Qatar. J'essaie d'être des miens et des vôtres. J'essaie de travailler sur mes défauts et tirer mes instincts médiévaux. Cette guerre contre moi-même durera pas 100 ans. J'essaie d'assurer la filiation, rendre fiers les ascendants. Mais on se trimballe des mines de cafards. Un stylo, un style de barbare. Pour mettre en musique des rimes de bâtard. Il nous faut juste une prise, un tel ou un thème. Nous on sera jamais les fils d'un tel ou un tel. Donc on suit nos propres schémas. J'emprunte mon propre chemin quand je ferme la porte de chez moi. Des données, des nourris, des maculés, des tâches. Des rimes gâchées, des cris, des raturés, des pages. Je prie pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus. Des feuilles brisées en deux, des roues qui veulent pas tourner. Des éclairs s'il y en a pas une seule par journée. Et pour que la chance ne tarde plus. Je veux pas être un bâtard de plus.
Thank you.